l'acceptation, par l'acceptation d'assumer les responsabilités du président du Parti congolais du travail, on est partisan.
Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambé. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 janvier 2026. Nous sommes au début de l'année, bientôt le mois va finir. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'ancien ministre, M. Clément Nyarasa, président du Rassemblement des Forces du Changement, mais aussi président du PSDC, Parti Social-Démocrate Congolais. M. Nyarasa a bien accepté de répondre à notre sollicitation. Donc, nous allons lui poser des questions sur ce qui se passe aujourd'hui autour de son parti et autour de mars 2026, mais aussi un peu l'actualité du Congo, mais aussi en international. Pour cela, je serai en compagnie de M. Grégoire Gaïno, notre politologue, qui lui aussi sera là pour poser des questions. M. Grégoire Gaïno, d'abord, ensuite, moi, je prendrai la parole aussi. En attendant, on va dire bonsoir à M. Clément Nyarasa. M. Clément Nyarasa, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Bélébé. Je suis très heureux qu'on puisse se retrouver pour cet échange en ce début de l'année.
Merci.
Bonjour aussi à Greg Gaïno. Je vous souhaite à tous les deux et à tous vos auditeurs une bonne et heureuse année 2026. Que ce soit pour vous une année de bonheur, de réussite, de prospérité, surtout d'une excellente santé.
Merci.
Parce que la santé est indispensable. Donc, encore une bonne année et à bientôt.
Merci.
Je suis là et je suis disponible pour qu'on ait un échange extrêmement intéressant.
Merci pour tout ce qui vous écoute. On sait vous souhaiter bonne année à tous les Congolais, Congolaises, Africains, francophones et tous ceux qui vous écoutent de par le monde au travers de cette interview. Monsieur Ndion, Monsieur Gaïno plutôt, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, Président Nyarasa. Bonsoir, Caïus.
Bonsoir.
Moi, ça va bien sous ce froid-là. Aujourd'hui, il fait très froid, mais ça va.
Merci beaucoup.
Mais au Congo, il fait très chaud. Au Congo, il fait très chaud et ça va.
Envoyez-nous un peu de chaleur.
On vous envie. Alors, Monsieur le Président Nyarasa, vous savez que l'actualité va très vite. On est pratiquement au milieu du mois de janvier. On va dire que l'élection, c'est dans un mois et demi. Hein. Il y en a qui disent deux mois. Mais dans un mois et demi, le PCT, au travers de sa communication, a lancé 30 jours pour une... Comment ils appellent ça ? Pour convaincre, 30 jours pour convaincre les Congolais, pour convaincre vous, peut-être, de vous rallier à eux. Nous, on va vous poser des questions, M. Gaïno va vous en poser, mais on va commencer par l'actualité, j'espère que vous la suivez comme nous. Donald Trump est allé chercher un président chez lui, le Venezuela, président Maduro. Quelle est votre lecture on ne sait pas, pour certains c'est un kidnapping, pour d'autres c'est une arrestation, même si c'est hors cadre de l'ONU.
Bon, merci bien pour votre question, mais je crois que l'actualité a bien évolué et je crois que nous tous, nous avons suivi après cette opération qui est condamnée par beaucoup de gens qui considèrent que ça ne respecte pas le droit international. Il semble que le président Trump n'est pas passé par le Congrès. Il semble que au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était également la surprise. Et aujourd'hui, je crois qu'avec les débats internes qu'il y a au niveau du Congrès américain, etc., je crois que tout le monde semble être convaincu, d'autant que j'ai lu dans les dernières actualités qu'il semble que les Américains eux-mêmes vivent au Venezuela une situation difficile et que le gouvernement américain a dû faire des communiqués pour demander aux Américains de quitter le Venezuela. Donc, c'est une situation, à mon avis, nous la déplorons et nous pensons qu'il y a comme une menace pour que ceux qui se considèrent comme puissants écrasent les faibles. Et vous savez qu'un pays comme le Congo, je ne peux le considérer que parmi les faibles de ce point de vue, parfois par rapport à leur richesse naturelle, par rapport à leur positionnement. Et que vous avez entendu le président Donald Trump parler non pas seulement du Venezuela, puisqu'il avait annoncé que les ressources pétrolières vénézuéliennes devenaient la propriété des États-Unis. Et il a annoncé qu'il avait également des objectifs sur la Colombie, sur Cuba, sur le Groenland, enfin sur un certain nombre de pays. Et vous voyez bien que ça entraîne des tensions géopolitiques et géostratégiques, mais ça mérite une attention toute particulière. Sinon, on peut imaginer qu'un jour, comme ça, au Congo, on apprenne qu'il y a une puissance qui est venue nous envahir, etc. Je crois qu'il faut suivre le problème de près, mais nous, par rapport au droit international, nous pensons que nous la déplorons et nous pensons qu'il faut aller vers une entente, une démarche de paix à travers le monde entier, y compris le vivre ensemble entre les puissants et les faibles. Voilà un peu le premier avis que je peux vous donner sur cette question.
Merci. Alors, deux questions d'actualité qui brûlent au Congo, dans le pool. Est-ce que vous savez ce qui se passe?
Pardon, s'il te plaît, sur le Venezuela, j'ai une question. Bon, je voulais. L'Union africaine n'a pas. On ne l'a pas vraiment entendu.
Elle a fait une déclaration d'Union africaine.
Condamnant l'invasion?
Oui, elle condamne cette opération. Elle a fait une déclaration, l'Union africaine. Peut-être que certains l'auraient souhaité forte, mais l'Union africaine a fait une déclaration. Et elle est claire, elle condamne cette opération.
Merci. Merci pour la précision. Alors, deux questions d'actualité au Congo où vous vous trouvez. Il y a le pool, il se passe quelque chose à Mindouli. Est-ce que vous êtes au courant? Que se passe-t-il vraiment? Quelle est la situation aujourd'hui? Et puis, l'arrestation d'un jeune lanceur d'alerte, Makita Fred, qui aurait été pris depuis Pointe-Noire, transféré à Dolisi. On nous dit qu'il a été transféré et on constate que les lanceurs d'alerte, la démocratie telle que prônée, la transparence telle que voulue, ben, ceux qui parlent ne sont pas vraiment, les bienvenus. Que savez-vous déjà du cas de Makita et que savez-vous de ce qui se passe dans le pool?
Bon, pour Makita est très connu des Congolais. C'est un grand lanceur d'alerte et c'est un grand leader d'opposition. Il s'exprime, etc. Il a été interpellé à Pointe-Noire, dit-on, transféré à Dolisie. On souhaiterait avoir des informations parce que là-dessus aussi, il y a beaucoup d'informations, de fausses informations qui circulent. Nous voulons insister sur le fait que notre constitution que nous avons adoptée elle garantit la liberté d'expression, elle garantit la liberté de libre circulation sur l'ensemble du territoire national et elle garantit la liberté de réunion et d'association. Donc, par rapport à tout ça, nous aimerions avoir des informations notamment sur les chefs d'accusation, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent qu'il a été libéré, il y en a qui disent qu'il a été condamné à 6 mois ferme, etc., sans pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, nous, on attend des informations officielles sûres pour que nous donnions notre point de vue, mais nous tenons dans notre point de vue, nous insisterons sur le fait qu'il faut que les lois soient respectées, que les droits des uns des autres soient respectés, que nous allions de l'avant. Et moi, je peux déjà dire d'entrée de jeu, si je suppose qu'il n'est pas dans cette situation pour avoir pris la parole parce que notre article 25 de notre constitution est très clair. Maintenant, s'agissant de la situation dans le pool, vous savez qu'il y a cette opération sur le Kuluna Zéro qui est lancée depuis un certain temps, oui, qui fait également l'objet de beaucoup de débats. Parce que vous savez que l'opinion est comme partagée là-dessus par le fait que certains estiment qu'elle ne se fait pas conformément à la loi, notamment les articles 8, 9 et 11 de la Constitution. Surtout que au Congo la peine de mort est abolie et on a suivi un certain nombre de scènes qui ont été troublantes. Maintenant, par rapport à l'opération Kuluna, ce qui préoccupe les Congolais, c'est lorsqu'on arrive jusqu'à la destruction des maisons des parents, avec, semble-t-il, d'après ce que l'on apprend, l'interdiction de soit de vendre la parcelle, soit d'y construire à nouveau pendant 5 ans. Bon, ben, ce sont des aspects qui sont préoccupants, etc. Mais on apprend toujours. Je ne partage pas cet avis parce que moi, j'aurais souhaité. C'est vrai qu'il y a le banditisme, c'est vrai qu'il faut régler cette situation qui était déjà gênante, mais c'est vrai aussi qu'il faut que nous respectons nos lois et règlements de la République, sinon ça ne sert à rien de les avoir adoptés. Et il y a beaucoup de Congolais qui estiment qu'on devrait recadrer cette opération pour qu'elle soit conforme à nos lois et aux lois et règlements de notre pays. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, ce qui se passe dans le pool, il semble que c'est dans cette dans ce cadre. Mais nous, on souhaiterait avoir vraiment des informations officielles, fiables, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se disent. Mais au stade actuel, ce que nous pouvons déplorer, c'est l'information selon laquelle il y aurait eu des morts. Et ça, à notre avis, c'est extrêmement préoccupant. Il faut que l'on veille à ce que les choses puissent aller de l'avant. Donc, le pouvoir a pris sur instruction du président de la République, plutôt la force publique, semble-t-il, à travers la Direction générale de la sécurité présidentielle, a pris la décision d'éradiquer structurellement le banditisme, les colonnades, les bébés noirs. Je crois que nous suivons, et je pense que, mais on dit dans l'opinion aussi, les gouvernants également le reprennent assez souvent, que une bonne partie de la population est satisfaite de cette opération, parce qu'il y a la paix, les gens se promènent maintenant dans les villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, même un peu tard. Donc nous suivons la situation, mais nous aurions souhaité qu'elle soit conforme et compatible avec nos lois et les règlements de l'art. Voilà la réaction que je peux avoir là.
D'accord. Monsieur Gagnon, question ?
Oui, je voudrais revenir sur ce point-là avant qu'on entame d'autres points que j'ai prévus. Vous venez de dire que la peine de mort est abolie au Congo. Mais lorsque on voit la DGSP ou la DGSP là, tuer les gens publiquement dans la rue, vous pouvez encore dire que la peine de mort est vraiment abolie ? Lorsqu'un État ne respecte pas ses propres lois, comment voulez-vous condamner les autres qui ne respectent pas les lois ? Par exemple, vous voyez ce qui s'est passé au Venezuela. Est-ce que le Congo pourrait même de condamner les États-Unis lorsque nous sommes incapables de respecter nos propres lois ? Qu'en pensez-vous ?
Non, mais dans tous les cas, je crois que quand on prend la Constitution, c'est la loi fondamentale. Et je crois que dans beaucoup de pays, et je souhaite que ce soit le cas pour nous, malheureusement, ce n'est pas encore le cas, la Constitution a un caractère sacré. Et quand vous prenez l'article 50 de notre Constitution, ben on dit que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution, et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Je crois que c'est dit clairement, et assez souvent on ajoute que nul n'est au-dessus de la loi. La loi est dure, mais nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Donc il nous revient, mais je dois vous donner avec précision, un peu puisque j'ai la Constitution sous les yeux, quand vous prenez l'article, je crois que c'est l'article 8, quand vous prenez l'article 8 de notre Constitution, je vous le lis intégralement, parce que ce sont des aspects qui font souvent l'objet de beaucoup de polémiques. On dit ceci, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. C'est bien écrit au niveau de l'article 8 de notre Constitution, et comme il est dit, l'article 50 dit que chacun de nous a le devoir et l'obligation de respecter la Constitution. Je crois que les choses sont clairement dites. Maintenant, c'est aux hommes, c'est aux gouvernants, c'est aux Congolais, c'est aux citoyens de veiller à ce que nous respectons nous-mêmes les lois que nous avons nous-mêmes adoptées.
D'accord. Mais vous venez de dire aussi que la population est satisfaite du fait que le calme soit revenu, que les gens peuvent se promener maintenant la nuit.
Mais les gens le disent clairement, hein, il faut reconnaître.
Oui, les gens le disent, d'accord, mais nous avons une population qui ignore même les lois de la République, parce que c'est les lois de la République. Il n'y a pas de débat public qui peut faire comprendre à la population ce que dit la loi, le contenu des lois, le contenu de notre Constitution. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que malgré tout ça, ça continue, c'est un désordre bien organisé par l'État, parce que j'ai l'impression que l'État veut faire la loi, si vous voulez, du plus fort, alors que c'est l'État qui a favorisé ça. Pourquoi la population ne parle pas de la responsabilité de l'État qui a laissé des jeunes former des groupes, parce que ces jeunes-là sont au chômage. Il y a bien des raisons qui font que les jeunes qui sont au chômage se retrouvent pour faire le banditisme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la population a conscience que c'est d'abord l'État qui est le premier responsable de ce fait-là ? Est-ce qu'il y a des débats qui sont organisés à ce sujet ?
Je pense que si on parle de la responsabilité, on peut dire beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, avec ces jeunes, il y a eu beaucoup de situations vraiment atroces, vraiment difficiles à vivre, etc. Et je dois dire que lorsqu'on se reporte à l'article 205 de notre Constitution, il est dit que la force publique est apolitique, puis elle est soumise aux lois et règlements de la République. Donc, quand on parle du respect du lois et règlements de la République, tout à fait normal que la responsabilité de l'État soit attirée. Mais ce qui est important et que je relève d'après l'analyse que je fais, c'est que lorsque le président de la République s'est adressé au peuple congolais sur cette question au niveau du CG de la liberté, en fait, moi, personnellement, j'ai cru percevoir que la force publique, à travers le commandement de la police et à travers le commandement de la gendarmerie, ont eu comme du mal à avancer dans cette opération et qu'il a fallu avancer avec la DGSP. Mais ça n'exclut pas que la DGSP respecte les lois et règlements de la République, puisqu'à chaque fois que j'entends la DGSP s'exprimer, mais elle se repose toujours sur la force de la loi. Et quand on se repose sur la force de la loi, l'élément fondamental, c'est la Constitution. Donc, au niveau de la responsabilité, il y a beaucoup de choses qui se disent, parce que vous avez suivi à un moment donné les témoignages qui avaient été faits par les députés de Vermoigny, qui avaient dit que sous le président Lissouba, ils avaient formé comme des groupes pour créer l'insécurité, etc. À la suite de ça, je crois qu'il avait perdu son immunité, il avait été emprisonné, puis après, il a été évacué en Turquie, puis on n'entend plus parler. Donc, de ce point de vue, la population aurait souhaité voir les choses être expliquées également clairement. Mais les gouvernants ne les ont pas encore expliquées. Mais j'ose espérer, puisque dans le livre « En toute transparence » où on fait le bilan, on insiste sur la notion de l'obligation de rendre compte de la notion de redevabilité. Donc, à un moment ou à un autre, les gouvernants devront expliquer clairement ces situations. Dans tous les cas, un bilan sera fait et je crois que ça permettra certainement aux uns et aux autres de s'exprimer, d'apprécier la situation.
D'accord. Alors, quand on va passer plutôt, M. Gaïnou, on va laisser ce volet. On sait que c'est un volet qui est encore en cours et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on est bientôt en 2026. Président Mirassa, est-ce que votre parti est prêt pour les élections?
Mon parti fait partie du Rassemblement des forces du changement. Vous le suivez, nous nous exprimons assez souvent. Vous entendez souvent les gens dire qu'il y a des gens qui ne s'expriment que sur les réseaux sociaux, etc. Je crois que nous-mêmes, nous avons conscience qu'on s'adresse à nous. Au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous avons un discours que nous avons tenu depuis, que nous avons lancé, que nous avons fait notre sortie. Nous avons pensé qu'il fallait que nous nous battons pour obtenir les conditions permissives, pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas encore le cas. Évidemment, vous me direz que nous sommes pratiquement à un mois et demi, sinon à deux mois de l'élection. Est-ce qu'on les aura? Mais nous continuons notre combat et jusqu'au moment où nous aurons fait le constat. Et je crois que s'il y a des leçons à tirer, nous les tirerons. Maintenant, est-ce que nous aurons un candidat ou quoi? Pour être clair, ce que nous avons dit pour l'instant, c'est que si les conditions n'étaient pas réunies, nous ne serions pas candidats. Est-ce qu'il y a des faits, des événements qui peuvent changer notre point de vue? Nous observons et nous regarderons comment les choses vont avancer.
Ça veut dire que quand on vous écoute, il y a une politique, la chaise vide qui est programmée ou qui est une option?
Non, nous ne parlons pas de politique de chaise vide qui est programmée. Pourquoi? Parce que nous faisons un constat en disant le Congo va mal, très mal. Il faut que nous allions au changement. Donc notre désir le plus ardent, c'est de nous battre pour avoir ces conditions pour aller. Mais nous ne les avons pas. Je vous prends des exemples. Je sais que ça va choquer certainement beaucoup d'entre nous, mais je suis obligé de le dire parce qu'il s'agit de questions de droit. Quand vous prenez l'alinéa 2 de l'article 80 de notre Constitution, il est dit que le président de la République ne peut pas occuper une responsabilité dans un parti politique.
Oui.
C'est très important. Mais présentement, nous l'avons constaté en 2019, nous le constatons maintenant, ça a été réaffirmé lors du dernier congrès, le président de la République est président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Toujours, on revient à cet aspect de violation des lois et règlements de la République. J'ajouterai à ça le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et les lois qui ont été votées par le Parti congolais du travail font apparaître clairement, notamment la loi 20-2017 du 12 mai 2017, fait apparaître clairement dans son article 31 qu'en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ses bureaux. Tout ça, c'est pas appliqué. Donc, nous nous trouvons dans une situation où on veut aller aux élections, mais tout en reconnaissant que nous violons nos lois dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Donc, dès le départ, il y a un problème, etc. Et c'est ça le problème fondamental qu'il faut poser, qu'il faut suivre. Et c'est ça que nous posons. Mais nous dirons à nos militants, je crois que nous aurons l'occasion d'avoir des échanges avec nos militants, parce qu'il faut aussi écouter les Congolais pour savoir exactement ce qu'ils veulent, parce que c'est les Congolais qui doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Nous avons des positions, mais il faut que nous soyons en harmonie et en complicité avec le peuple. Mais pour l'instant, ce que nous avons dit, c'est que il fallait que les conditions, mais elles ne sont pas remplies, c'est dommage. Et la responsabilité des gouvernants est claire là-dessus. Ils ne veulent pas organiser des élections libres, équitables et transparentes. Et ça, c'est un constat que nous pouvons faire. Nous pouvons avoir des éléments pour l'avancer, etc. Mais malgré tout, vous avez appris qu'il y a déjà, je crois, pratiquement une dizaine de candidats, une dizaine de personnalités qui se sont déjà annoncées comme des candidats à l'élection présidentielle. Mais nous, notre position, nous continuons et je crois que nous aurons l'occasion d'avoir des positions définitives sur ce que doit être notre position. Je vous rappelle, monsieur Bébé, monsieur Gaïno, qu'en 2016, nous avons, au niveau du FOCAD et de l'IDC en tant qu'opposition, nous avons pris, au cours d'une convention que nous avons organisée, on avait pris la décision de dire que, bon, malgré les conditions, nous allons à l'élection. Mais vous connaissez la finalité. Moukoko et André Okombi-Salissa sont en prison. En 2021, Guy Brice Parfait-Kolela a pris la décision également d'aller. Et vous savez que le jour de l'élection, il a trouvé la mort dans des conditions non élucidées, curieuses, mais en laissant un testament qui préoccupe les Congolais, parce qu'il avait dit, pour les enfants, pour l'avenir du pays, battez-vous pour le changement, etc. Et je crois que c'est des notions, des références assez fortes qui ont retenu notre attention. Donc voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez dire qu'il reste quelques jours, je crois qu'il y a une procédure qui doit se faire, des dates annoncées pour le dépôt des candidatures, après l'examen de ces candidatures par le Conseil, par la Cour constitutionnelle, etc. Et puis la campagne, puisque l'élection est annoncée pour le 22 avril, je crois, le 22 mars plutôt, ben il faut décompter 15 jours avant, c'est certainement autour du 4 mars, et la campagne devrait commencer. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup de temps, mais ce temps qui reste important pour des décisions importantes que nous devons prendre, y compris au niveau du rassemblement des forces du changement. Voilà ce que je peux dire à votre question.
Monsieur Gaïno, vous avez des questions?
Oui, j'en ai, mais je demanderai pour cette première question une réponse assez rapide. Le Congo est finalement un pays qui n'a jamais été en conformité avec ses lois, à vous entendre dire. Alors, vous parlez de votre combat. Lequel? Puisque refuser d'aller aux élections, ou est-ce que ça allait aux élections? Quel est finalement votre combat?
Ben, notre combat, nous nous battons pour le changement de la rupture, nous nous battons pour la restauration de la démocratie, nous nous battons pour la libération, ce que nous appelons libération de notre pays. Et pour y arriver, il faut aller aux élections, comme vous le dites. Mais pour aller aux élections, il faut que les conditions soient remplies. Et l'un de nos combats, c'est justement de tout mettre en œuvre, de tout faire pour que ces conditions soient remplies afin que nous allions aux élections. Parce que notre option, nous qui nous battons pour l'alternance démocratique, pour présenter une alternative aux Congolais, notre option, nous l'avons toujours dit, elle est pacifique, elle est démocratique. Et peut-être que les gens veulent profiter de ça à chaque fois pour se mettre dans des conditions qui ne nous permettraient pas. Mais je dis encore que sur cette question, nous aurons l'occasion, quand nous ferons le point et nous tirerons les conséquences pour l'intérêt également à la fois du rassemblement et à la fois des Congolais. Donc, maintenant, notre position, c'est celle que vous ai indiquée. Et nous avancerons là-dessus.
Bon, les élections s'approchent pratiquement. Le mois de mars est presque à nos portes. Alors, on a vu récemment les deux partis, les deux grands partis du Congo, à savoir l'UPADES et le PCT, organiser des congrès. Mais première question, on vous a vu occuper une bonne place pendant le congrès du UPADES. Pendant le congrès du UPADES. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous aimerions comprendre votre présence là. Qu'est-ce que votre présence explique là? Quel est l'intérêt de votre présence?
Oui, surtout que vous avez dit déjà avant, vous avez dit au peuple congolais pardon. Ensuite, vous avez dit que l'UPADS, qu'on avait compris, était un parti qui faisait la politique du ventre et que vous n'alliez pas traiter qu'un parti qui fait la politique du ventre. Alors, question, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Pourquoi vous êtes allé là-bas?
Ben, d'accord, je dois vous dire que le fait que j'étais à l'ouverture du congrès de l'UPADS ne signifie pas que j'ai renoncé à tout ce que j'avais dit avant. Et je peux vous le repréciser aujourd'hui parce que sur ces questions, je ne transige pas. Vous avez parlé des deux grands partis. D'abord, c'est là où votre question est certainement pertinente. Vous avez parlé du Parti Congolais du Travail. Clément Mirassa est l'un des rares Congolais qui a fait la démonstration à travers une institution qui s'appelle la Cour constitutionnelle et qui a déposé un recours en juin 2020 pour faire la démonstration que le président de la République et le Parti Congolais du Travail n'était pas en conformité avec la loi. Et ce recours a été déclaré recevable par la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée incompétente et qui a fait le choix d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre et chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et au ministre chargé de la Justice. Donc vous voyez bien que de ce point de vue, je considère que toutes les autorités au Congo savent, à travers ce recours, que le Parti Congolais du Travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas des attaques personnelles, c'est une question de droit. Et le droit, c'est à travers les preuves, et moi j'en ai fait. J'ai introduit un autre recours, s'agissant de ce que j'appelle théâtre, que Anatole Koliné-Makossa avait introduit avec certainement d'autres institutions sur l'obligation de déclaration de patrimoine. Et cette fois-ci, on m'a donné raison et il y a eu un amendement de la loi, c'est je crois la loi 15-2024, je crois du 24 mai 2024, et depuis, il n'y a plus de déclaration. Donc c'est pour vous dire que ça ne me gêne pas de dire que le Parti Congolais du Travail, même après son congrès, d'ailleurs ils ont fait une récidive, parce qu'à ce congrès, ils ont encore confirmé que le président de la République est président du comité central, c'est-à-dire qu'ils ont confirmé qu'ils sont dans la logique de la violation permanente, dans l'impunité totale des lois et règlements de l'art. Maintenant, j'ai l'UPADES, j'ai dit aussi, je peux faire la démonstration que l'UPADES aussi n'est pas en conformité avec la loi, je l'ai dit. Bon. Maintenant, quand je vous évoque ça parce que votre question immédiate doit c'est tellement dédiée. Mais pourquoi il a été à l'ouverture? Mais oui, d'abord, pourquoi? Je vous rappelle, du point de vue amical, Satim Abiala, c'est un ami. C'est vrai que sur les choix politiques, je crois que nous ne sommes plus en harmonie, puisque de toute évidence, Satim Abiala est chef de file de l'opposition. Il semble qu'il gère un groupe de partis politiques qu'on appelle OPC, opposition politique congolaise, etc. Je n'y suis pas. Satim Abiala, c'est un ami, mais ce n'est pas sur la base sentimentale que je suis allé au congrès. Je suis allé au congrès d'abord parce que j'ai été surpris par l'invitation de Pascal. Il m'a fait l'amitié de m'inviter. Et ensuite, je suis allé parce qu'il y avait un contexte particulier. Le contexte particulier, c'était lequel? Mais vous avez le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui prend régulièrement des arrêtés pour dire il reconnaît tel parti, il reconnaît pas. Et vous m'avez posé la question l'autre fois que j'ai fait une émission avec vous pour dire mais pourquoi votre parti n'a pas été retenu? Et pourtant mon parti, le PSDC, existe depuis 91 et il a son récépissé. Donc il n'est pas à la recherche d'un récépissé. Et moi justement, quand Pascal m'a donné cette opportunité, puisque généralement, ils ne sont en contact qu'avec les partis qu'ils considèrent comme conformes, alors moi, j'ai voulu donner à l'opinion l'image de ce que, en réalité, à plusieurs niveaux, était comme une volonté d'exclure Clément Miracet du Parti social-démocrate congolais. La preuve, c'est que le président, le chef de file de l'opposition, qui semble-t-il ne convoque à ses réunions que les gens qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, m'a fait venir. Donc j'ai voulu donner l'occasion à l'opinion nationale et internationale, une fois de plus, de dire, ben, vous voyez, si on m'appelait, c'est qu'en réalité, mon parti est conforme, mais qu'on ne devrait pas avoir des problèmes au-delà de ce que moi-même, je ne doute pas de ça. Mais c'est une preuve de plus pour donner la preuve à tous ceux qui essaient de nous exclure, de prendre un certain nombre de notes pour dire qu'ils sont dans l'erreur et que c'est dommage qu'ils aient cette volonté d'exclure un parti comme le Parti social-démocrate. Maintenant, je dois vous dire, j'ai été invité en tant que parti. Eh ben, j'ai eu, avant de partir, je dois vous faire la confidence que j'ai eu la sentiment et de mon parti et du Rassemblement des Forces du Changement parce que je ne voulais pas me retrouver dans une situation délicate. Donc voilà un peu, Cathus et Greg, la réponse que je voulais donner. Je sais que j'ai reçu beaucoup de réactions des gens qui n'étaient pas favorables, mais je leur ai donné l'explication que je suis en train de vous donner. Est-ce que je les ai convaincus? Je n'en sais rien. Mais au moins, aujourd'hui, je considère que nous avons mené le combat et nous continuons à mener nos actions. Ça veut dire que les gouvernants savent bien qu'il y a le Parti social-démocrate congolais. D'ailleurs, ma contribution, je ne veux pas me vanter, parce que le moyen est haïssable. La contribution de Clément Mirassa à l'animation et à la dynamisation de la démocratie congolaise, c'est quand même quelque chose que personne, ni au PCT, ni à l'OPC, etc., ne peut remettre en cause. Et nous sommes là, nous sommes présents et nous avançons. Mais ça n'a changé en rien les positions politiques que nous prenons.
Donc en gros, ce que vous faites,
excusez-moi,
ce que vous dites aujourd'hui aux Congolais et aux Congolaises qui vous écoutent, votre présence était une stratégie pour mettre en lumière le fait que votre parti soit reconnu officiellement, mais qu'on est en train de faire semblant de dire qu'il n'existe pas. C'était ça en fait la stratégie.
Oui, mais c'est bien ça. C'est bien ça que je vous explique. Oui. J'ai voulu que l'opinion, tant nationale qu'internationale, comprenne qu'au niveau des gouvernants congolais, il y a une volonté de m'exclure, tout en sachant que j'ai récipicé et j'ai voulu donner une fois une preuve. Et je remercie en cela Pascal pour le geste qu'il a fait, parce que ça m'a permis. Peut-être que les uns et les autres n'ont pas fait cette analyse politique. D'ailleurs, s'agissant du congrès du PCT, je peux également donner mon avis si vous avez des questions là-dessus. Mais je crois que c'est cette analyse que je fais.
Tout à fait. Voilà, on comprend. Monsieur Gaïnon, on comprend mieux votre
à vous entendre.
Monsieur Gaïnon,
Où vous placez maintenant l'UPADES? Est-ce que c'est un parti d'opposition ou est-ce que c'est un parti de la majorité présidentielle?
Non, moi,
parce que ils ont fini leur congrès. Pardon, je termine. Je pense qu'ils ont fini leur congrès. Ils n'ont pas désigné un candidat à l'élection présidentielle, si je ne me trompe pas.
Non, moi, Greg, je ne veux pas classer l'UPADES. Moi, je ne veux pas aller dans la politique congolaise qui se fonde sur la langue de bois. Lorsque je dis, Greg, que l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi, j'ai les éléments de droit qui me permettent de faire cette démonstration.
Tout à fait.
Et je suis prêt à en débattre avec les amis de l'UPADES. Maintenant, quelle est leur position par rapport à l'élection présidentielle, etc. Ben, moi, je les ai vus en bonne position au congrès de l'UPADES, mais ça, c'est moi qui fais les supputations. Je les ai vus en très bonne place au niveau du congrès du PCT, et dans cette ambiance que j'ai découverte au congrès du PCT, j'ai le sentiment, je ne veux pas faire porter un fardeau à l'UPADES qui ne mérite pas, mais j'ai le sentiment que ceux qui étaient ce jour-là dans cette salle du congrès plaidaient pratiquement pour le soutien, sinon l'appel à la candidature du président Denis Sassou Nguesso. C'est le sentiment personnel que j'ai eu.
Monsieur le président Mirassa, que ce que vous dites, nous, on a pu avoir des informations. Il semble que ce que vous dites soit véridique. Le PCT a adopté une stratégie qui est de dire que le président va se présenter sous la bannière du rassemblement à la majorité présidentielle. Et l'UPADES ne présentera pas sûrement de candidat, mais comme d'autres partis, à soutenir. Mais comme on dit, on verra. L'avenir nous dira. Moi, ce que je veux savoir, c'est sur vous et les forces du changement, le rassemblement des forces du changement. On a le sentiment quand même que vous êtes beaucoup plus dans le réactif que dans le proactif. On voit très bien que vous communiquez, souvent c'est après que le PCT ait parlé. Et là, est-ce que vous avez essayé, par exemple, de vous de demander de participer aux 30 jours pour convaincre? Parce que si ce n'est que le gouvernement qui fait son défilé et qui arrive, est-ce que vous, on vous a sollicité pour pouvoir donner votre point de vue sur ça? Deuxième question, évidemment, le congrès du PCT, vous l'avez vu?
Oui. Mais Cactus, je veux participer aux 30 jours pour convaincre de quoi?
Critiquer le bilan, justement.
Moi, non. Mais Cactus, Caïs. Je te donne mon point de vue. Oui. Caïs, plutôt. Je te donne mon point de vue. Oui. Je suis des Congolais qui pensent que le président Denis Sassou Nguesso et le Parti Congolais du Travail ont lamentablement échoué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis des Congolais qui pensent, et je crois qu'en la matière, il n'y a pas beaucoup de Congolais qui développent mon point de vue, qui consiste à dire que le Parti Congolais du Travail et le président Denis Sassou Nguesso ne sont pas en conformité avec la loi. Je fais une émission qui s'appelle « Grand Angle » et la dernière émission que j'ai faite avant qu'on se retrouve, j'ai déclaré clairement qu'en ce qui me concernait, la position du président Sassou ne lui permet pas d'être candidat à la présidence de la République. Je l'ai dit, mais je ne le dis pas sur la base de la langue de bois. Je dis sur la force, puisque aujourd'hui au Congo, on parle de la force de la loi. Je le dis sur la base des principes de la force de loi. Et je vais essayer de vous développer pour que vous compreniez ce que je dis. Allez-y. Je n'ai de cesse de dire, je vous ai dit que j'ai introduit un recours. Ensuite, je peux évoquer des aspects du droit. La Constitution est là. Je vous ai déjà dit que le président Sassou ne peut pas être président du comité central du Parti Congolais du Travail, c'est-à-dire président du Parti Congolais du Travail. C'est déjà une violation de la Constitution et c'est une violation de l'article 50 qui dit que tout citoyen congolais a le devoir de se conformer à la Constitution. Les choses sont claires.
Oui, mais pourquoi le président n'a pas le droit d'être président du comité central et donc du Parti Congolais du Travail? La loi lui dit quoi? Parce qu'il est président, il n'a pas le droit d'être autre membre d'un parti?
Mais j'ai la Constitution sous les yeux. Oui. Il suffit de prendre la linéa 2 de l'article 80. Qui dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique.
D'accord.
Et justement, le dernier congrès du PCT a donné la preuve, parce qu'ils ont dit, dans le message du président Denis Sassou Nguesso, il a dit que de par sa position de président de la République, il ne peut pas être partisan. Mais en fait, par l'acceptation d'assumer les responsabilités le président du Parti Congolais du Travail, on est partisan. Et à partir de ce moment, il y a beaucoup d'autres choses, des choses qui peuvent se développer. Et je continue en disant, puisqu'il faut que les uns les autres comprennent, quand vous prenez la constitution du 25 octobre 2015, l'article 55 de cette constitution dit quoi? Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et lors de la cessation de celle-ci. Mais ce n'est pas une attaque que je fais au président Sassou. C'est un constat de droit que je fais. Le président Sassou n'a pas déclaré son patrimoine. En 2002, il ne l'a pas déclaré. En 2009, il ne l'a pas déclaré. En 2016, il ne l'a pas déclaré. En 2021, et la preuve la plus flagrante, c'est que la loi qui permet justement de faire cette déclaration de patrimoine dit clairement que lorsque vous avez fait votre déclaration de patrimoine, il y a un récépissé qui vous est remis et ce récépissé est publié au journal officiel. Sortez-moi le journal officiel qui va faire apparaître que le président Sassou a déjà fait une déclaration de patrimoine. Ça n'existe pas. Donc c'est sûr, moi je me base sur la force de la loi et sur l'argumentation du droit.
On a bien compris.
J'ai une question qui me brûle les lèvres.
Bon, pas trop.
J'ai une question qui me brûle les lèvres.
D'accord.
Monsieur Mirassa, à vous entendre parler, vous avez parlé des institutions de la République qui ne respectent pas la loi. On a vu les exécutions sommaires des citoyens sans même qu'ils ne soient arrêtés ni jugés pour prouver leur culpabilité. Le président de la République lui-même foule au pied les lois de la République puisqu'il n'a jamais déclaré ses biens. Donc, au regard de tout ce que vous dites là, est-ce que le Congo, pour vous, ne ressemble pas à un pays qui évolue sous occupation?
Ou plutôt, on va dire plus simple, M. Mirassa, est-ce que pouvez-vous attendre d'un pouvoir ou d'un parti
qui foule au pied les lois de la République? Non, pardon, ça c'est autre ligne. Est-ce que ce n'est pas vraiment un pays qui
est... Quelle est la question? Quelle est la question que vous voulez me poser?
Oui, allez-y, monsieur Gagné, vous lui posez tout seul.
Ma question est celle-ci, je reprécise. Bon, on assiste à des exécutions sommaires des citoyens, sans même les avoir jugés, alors que nous avions aboli la peine de mort. Tout ça, vous en savez. Vous dites, c'est déjà hors la loi. Les institutions de la République ne respectent pas la loi. Le président de la République lui-même foule aux pieds les lois de la République parce qu'il déclare jamais, il n'a jamais déclaré ses biens. On peut encore multiplier des cas. Est-ce que le Congo, pour vous, ne ressemble pas à un pays occupé?
Non, je ne crois pas. Bon, le Congo n'est pas bon. Sur la question, je pourrais faire une insinuation. Nous avons eu un débat très fort et nous avons intervenu là-dessus avec quelques compatriotes quand il s'agissait de ce problème avec le Rwanda. Et nous en sommes toujours préoccupés parce que on avait parlé également d'un accord militaire et technique qui n'a jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Maintenant, ça, c'est une autre paire de manches, mais j'évoque ça, je profite de votre question pour évoquer ça, pour dire que les élections approchent. Il ne faut pas qu'un jour, par exemple après l'élection du 22 mars, que nous vivons un peu ce que le Mozambique a vécu, où il y a eu des forces, la présence des forces rwandaises qui ont pratiquement agi pour pratiquement une répression féroce et sauvage sur les militants de l'opposition. Mais c'est pas là. Maintenant, pour répondre de façon claire à Greg, tel qu'il a dit, moi le constat que je fais est le suivant. C'est que ce constat que je fais, c'est un constat de droit. Et le droit, je ne suis pas juriste, mais ce que j'ai appris, c'est qu'au niveau du droit, on se base beaucoup sur les preuves. Les preuves, je les ai, puisque je vous les donne. Maintenant, le constat que je fais et que je déplore, mais c'est l'absence des contre-pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. On ne peut pas être dans une situation où... Et c'est le constat que les Congolais doivent faire. Et ils doivent, en réfléchissant pour prendre le destin de leur pays entre les mains, ils doivent réfléchir si ce n'est pas une faiblesse. C'est une grande faiblesse. Tout ça se passe depuis pratiquement 2002 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire pendant près de 22 ans, et on constate qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de contre-pouvoir. L'Assemblée aurait pu jouer ce jeu, le Sénat aurait pu jouer ce jeu, mais au Congo, ça veut dire en fait qu'il s'agit, c'est peut-être une analyse personnelle que je fais, il s'agit d'un système et il s'agit d'une appartenance à un système qui ne veut pas se détruire ou s'autodétruire et on continue. Mais sinon, le constat que je fais par rapport aux violations des lois et règlements de la République, il est clairement fait, je l'ai fait, je l'assume, j'ai introduit des recours à la Cour constitutionnelle et j'ai eu les réponses que je souhaitais. Je crois que si j'ai encore l'occasion d'introduire un recours, mais évidemment, je l'introduirai.
D'accord.
Voilà un peu Greg, ce que je
peux. On va faire deux questions plus courtes parce qu'on est on vous occupe beaucoup, c'est beaucoup 40 minutes pour une seule personne. On sait que vous répétez à longueur de journée, les Congolais doivent comprendre que votre combat il est noble et que c'est pas évident. On vous comprend mieux. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est on arrive là, vous avez une date butoir, vous, les forces, le rassemblement des forces de changement, pour dire à telle date, nous les Congolais, on vous dira ce qu'on pense. Vous avez dans votre programme une date butoir pour dire, bon, à telle date, à mi-parcours de février, nous on va vous donner ce qu'on pense. Et deuxième question, quel est pour vous un peu ce qui est un peu incroyable, c'est que vous, quand on remarque le PCT, ils ont fait leur congrès, ils se sont eux-mêmes, comme on dit, autodétruits un peu. Le PCT ne reconnaît pas la diaspora. Il ne la reconnaît pas officiellement, ils ont un ministère des Affaires étrangères et de la diaspora, mais il n'y a aucune, il n'y a rien. Nous proposons au moins un conseil consultatif de la diaspora qui peut être créé. Il n'y a rien. Mais le PCT a fait venir plus de 25 délégations personnes de l'Europe. Donc il reconnaît la diaspora du PCT et on a payé des billets pour ça. On imagine que c'est le trésor congolais. Comment on peut expliquer cette opposition de ceux qui doivent incarner l'autorité et qui derrière, l'autorité, elle est bafouée.
Mais moi, je pense que les